Le baromètre politique, on va l'évoquer maintenant parce que la température est montée d'un cran aussi depuis que Marine Le Pen s'est officiellement lancée en campagne après l'arrêt de la cour d'appel concernant l'affaire des assistants parlementaires. Elle a été condamnée en appel pour détournement de fonds publics. Ça ne l'a pas empêché Marine Le Pen de partir au combat du côté de la Flèche dans la Sarthe et surtout d'être maintenant en tête des sondages. Si l'on se fie à la dernière étude IFOP, qui a été tout à l'heure analysée par son auteur, Frédéric Dabi, Marine Le Pen largement devant les intentions de vote au premier tour, donnée gagnante face à trois candidats potentiels au deuxième tour, Gabriel Attal, Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon, et elle fait même mieux que Jordan Bardella, Frédéric Dabi.
La dernière enquête qu'on a faite il y a 15 jours, on avait 4-5 points d'avance pour Bardella sur Marine Le Pen, parce que il y avait cette intériorisation qu'elle ne n'irait pas. Et là, avec cet effet de déclaration, même si on a sondé à chaud, faut être extrêmement prudent, il y a un temps de digestion de l'opinion publique, dans toute une série de catégories bardellistes, si je puis dire, où Jordan Bardella avait percé, Marine Le Pen a refait presque automatiquement son retard. Je fais référence aux jeunes, aux cadres supérieurs, aux dirigeants d'entreprise, et surtout à cet électorat de droite, l'électeur de Pécresse, d'Éric Zemmour, qui sont tentés par l'union des droites.
Voilà, on va en discuter, en débattre maintenant avec Raquel Garrido. Bonsoir Raquel Garrido.
Bonsoir.
Députée, qui est ancienne députée de la France Insoumise, aujourd'hui avec le mouvement L'Après. Et puis Victor Hugo de Valeurs Actuelles.
Bonsoir.
Bonsoir Victor. Alors, voie royale ou chemin de croix qui s'annonce pour Marine Le Pen, Victor?
Alors, c'est les deux. Chemin de croix parce qu'évidemment, ça va être une campagne, comment dire, compliquée à mener. Du fait simplement qu'il va falloir répondre sur le plan judiciaire à chaque fois qu'un adversaire lui sortira ou chaque fois qu'un passant sortira des casseroles, par exemple. C'est des images qu'on a l'habitude de voir dans le genre de campagne qu'on s'apprête à vivre. Voie royale, je le crois aussi, parce que Marine Le Pen, pour l'instant, et on le voit d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion que vous avez citées, elle n'a pas été désavouée, mieux, elle fait des scores plus hauts que ce qu'on imaginait, plus hauts que ce qu'on voyait dans les enquêtes d'opinion jusqu'ici. Il y a un côté, c'est d'ailleurs à mon avis le sens de son slogan, la Renaissance, il y a un côté phénix, c'est-à-dire il y a un côté femme qu'on n'arrive pas à tuer, qui ne se laisse pas abattre comme ça.
Un effet résurrection.
Exactement, c'est je ne me laisse pas abattre, j'y vais un petit peu au culot, si vous voulez. Ça, à mon avis, il y a une part de Français qui aime bien ce tempérament. Là, bon, maintenant, le grand défi pour le Rassemblement national, c'est pas d'arriver au second tour, c'est de rallier 50% plus une voix au second. Donc c'est ça qui sera peut-être.
Vous avez vu, pour l'instant, elle bat tout le monde, même Édouard Philippe.
Exactement. Campagne est encore longue.
D'accord, mais qui semble être son candidat le plus redoutable.
Ça, je ne m'y attendais pas. J'avoue, quand je vois Marine Le Pen battre hypothétiquement aujourd'hui à 54% Édouard Philippe à un second tour, je me dis, tiens, il y a quand même un effet de soutien massif à Marine Le Pen, que je pensais plutôt battue.
Alors, voie royale ou chemin de croix? Je repose la même question.
Moi, je ne vais donner aucun crédit aux sondeurs, mais il me semble que, déjà d'une part, on sait que l'extrême droite est forte dans ce pays. Aux élections législatives, dans les urnes, cette fois, pas dans les sondages, ils ont fait 10 millions de voix, ce parti-là, et c'est un stock de voix qui est politiquement homogène, finalement, quel que soit le ou la candidate. Deuxièmement, en revanche, je pense qu'il y a en France une vague de dégagisme, et je suis pas du tout certaine que les Français soient contents de la culture d'impunité politique et des abus de pouvoir. Et là, on est face quand même à une femme qui recherche avant tout de partir en cavale à l'Élysée. Parce que effectivement, la Constitution confère à la fonction présidentielle l'immunité présidentielle, et on sait toutes et tous que si elle est condamnée définitivement pour détournement de fonds et qu'elle met un pied à l'Élysée, personne ne lui mettra de bracelet, personne ne fera exécuter une décision de prison ferme. C'est ce qui est prévu par la Constitution, et c'est la raison pour laquelle je considère qu'on est actuellement dans un état de crise profonde de la démocratie française, de la justice française, de notre éthique globale. Et j'en veux énormément au parquet. J'en veux énormément au parquet. Le parquet, qui est censé poursuivre les délinquants dans ce pays, a obtenu du tribunal correctionnel une condamnation de Marine Le Pen et de ses acolytes pour détournement de fonds, a obtenu l'exécution provisoire d'une décision d'inéligibilité.
En première instance.
Et maintenant que Marine Le Pen n'accepte pas la décision de l'arrêt de la cour d'appel et a formé un pourvoi contre cette décision, maintenant le parquet nous dit, ah non, la décision l'exécution provisoire de la décision de première instance n'a pas lieu. Ce qui est quand même lunaire. La preuve que ça a lieu, c'est qu'elle elle n'est pas conseillère départementale. Marine Le Pen a reçu une lettre de la part de la préfecture du Nord pour démissionner de son siège de conseillère départementale. Là, elle va pas être réinstituée, d'accord? Donc en fait, l'exécution provisoire de cette peine d'inéligibilité, elle court. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit la Cour de cassation en 1993, en septembre 93. C'est ce qu'a dit le Conseil d'État en 2009.
Non, c'est pas ce qu'a dit ce matin Rémy Heitz, le procureur.
Eh bien, Rémy Heitz, travaille dans la vie.
C'est le plus haut magistrat de France.
C'est le parquet. Peut-être que c'est un peu technique pour les gens qui nous écoutent à la maison. Mais il y a une très grande différence.
Il vous a contredit officiellement ce matin.
Oui, oui.
Mais on voit bien qu'il y a un débat de juge, vous êtes avocate. Lui, il est magistrat, vous ne dites pas la même chose.
Lui, son rôle, c'est le parquet. C'est-à-dire que lui, au nom de nous, les citoyens, il doit poursuivre les délinquants. Il a une délinquante sous les yeux. Il a obtenu sa condamnation. Il a obtenu l'exécution provisoire d'une décision de justice. Mm-hmm. Et maintenant, alors que c'est lui qui doit obtenir l'application de cette exécution provisoire, il dit « Ah non, mais finalement, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. » Alors, qui nous défend, nous, alors, les citoyens, face aux politiques véreux ?
Peut-être qu'il ne défend pas votre point de vue, mais qu'il défend ce qu'il estime être le mieux du point de vue du droit. La jurisprudence de 93, c'est le grand débat depuis deux jours, la jurisprudence de 93, je fais très vite là-dessus parce que c'est un peu technique, elle est extrêmement contestée. Je veux dire, il n'y a pas de point d'accord, de consensus.
Il y a des professeurs de droit qui disent...
La journée au téléphone ces deux derniers jours avec des avocats, des magistrats, des conseils qui me disent tous ça dépend, on ne sait pas.
Ça signale qu'il y a dans les élites de ce pays l'acceptation d'une corruption politique pour quiconque se prétend futur président.
Quel serait l'intérêt de Rémy Heitz
Mais écoutez, Rémy Heitz, vous lui posez la question,
comme vous lui posez la question.
Je suis surpris.
Écoutez, je constate que son travail à Rémy Heitz, c'est de poursuivre les délinquants. Il a une délinquante sous les yeux. Si Marine Le Pen voulait que l'arrêt de la Cour d'appel s'applique, il fallait à ce moment-là qu'elle ne forme pas de pourvoi
du droit.
Contre
on
cet
verra
arrêt.
Quelle interprétation sera retenue. La jurisprudence est en train d'écrire sous nos yeux là. On est dans l'inconnu total et les juristes,
encore
notamment la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel,
encore faut-il que le parquet pose la question.
Excusez-moi, mais est-ce que ça passionne les Français ça, pardon.
De savoir si elle peut se présenter ou pas. Oui, Raquel Garrido aimerait que Marine Le Pen soit inéligible. Qu'on revienne à la peine.
Il y a un tribunal qui l'a dit. C'est pas que j'aime.
Raquel Garrido,
un tribunal qui l'a déclaré inéligible pour 5 ans avec exécution provisoire.
Vous voudriez qu'on revienne à la peine de première instance, si je comprends bien.
Non, je n'ai pas de volonté, je suis aboulique en la matière. J'ai lu un jugement et dans
encore
l'état
fois,
de droit, la France,
vous
normalement.
Avez l'air de vous battre pour qu'elle soit inéligible.
Mais parce que je trouve que les élites, là, sont en dessous
de tout.
Mais
pourquoi ne pas faire confiance au peuple? C'est au peuple. Et Marine Le Pen dit attendez. Marine Le Pen dit, c'est au peuple de me juger.
Elle a dit impunité. Elle a dit je veux être présidente.
Non, elle dit souveraineté populaire.
Non. Elle dit je m'assois sur une décision
Victor Hérault vous réponde quand même.
Parce que ça ne s'applique pas à moi. Pourquoi? Parce que je suis
Victor Hérault. C'est un recours.
Elle dit l'argument d'Olivier Truchot n'est pas celui de dire.
C'est une Marine Le Pen. Elle dit c'est au peuple de me juger.
C'est aussi l'argument de la Cour d'appel.
Pour moi, le pourvoi, il est simple. Le pourvoi, il suspend les effets de la décision de l'arrêt de la Cour d'appel. À partir de ce moment-là, l'exécution provisoire de la décision première.
Mais Raquel Garrido, c'est votre interprétation juridique, il y en a d'autres, donc on va pas faire un débat juridique pendant un quart d'heure.
C'est un débat démocratique, parce que quand il y a les tribunaux dans ce pays qui décident des choses,
je suis surpris, honnêtement, de vous voir aujourd'hui défendre ce point de vue, parce que les archives ne mentent pas, et que je suis remonté dans votre Twitter, sur votre tweet, jusqu'à 2018.
Ouais.
2018, Lula, au Brésil, est menacé d'incarcération pour les histoires de corruption, etc. On connaît l'affaire. Et à ce moment-là, vous écrivez et vous défendez la position que je défends aujourd'hui, c'est-à-dire le contraire de ce que vous défendez aujourd'hui. Je lis attentivement le tweet. C'est une question de principe. Hein.
Attendez, vous êtes en train de comparer la justice française avec la justice brésilienne.
Le juge qui a envoyé
Lula en prison est aujourd'hui en prison.
Laissez-moi lire, c'est très rapide.
Ça vous arrange bien,
quand les juges modifient le panorama politique avant l'intervention d'un jugement définitif, c'est limite sur le plan démocratique, ça vaut au Brésil comme en France d'ailleurs. Vous écrivez ça en 2018.
Écoutez-moi,
vous voudriez que Marine Le Pen soit inéligible aujourd'hui. En tous les cas, vous défendez la peine de première instance qui a été infirmée par l'appel puisqu'il dit la peine a été purgée d'inéligibilité et Marine Le Pen s'est pourvue en cassation et donc la peine n'est pas définitive, je lis vos mots. Changer le panorama politique avant l'intervention d'un jugement définitif, la cassation, c'est limite sur le plan démocratique. Votre position aujourd'hui est l'exact inverse de la position que vous défendez vis-à-vis de Lula.
Non, ça n'est pas. Écoutez, d'abord, je vous fais confiance sur mes anciens tweets. Je vous en donne crédit. D'abord, le Brésil n'a rien à voir avec la France, vu que le juge
pour le Brésil comme pour la France d'ailleurs.
Victor, le juge qui a incarcéré Lula contre la loi est aujourd'hui en prison, d'accord ? Donc c'est pas la situation en France. En France, nous avons des lois sur la probité. Vous avez des hommes et des femmes politiques qui se font élire, qui ont des positions de pouvoir, qui abusent de ce pouvoir pour détourner de l'argent, d'accord ? Donc la peine, qui est une peine, on va dire, de prison, une peine d'amende, on l'a sortie en plus d'une peine d'inéligibilité, qui est une peine spécifique de protection de la démocratie. Oui, parce que nous, les citoyens, si on envoie des gens en pouvoir qui ensuite contournent et détournent l'argent, non, c'est pour ça qu'on a fait des lois sur l'inéligibilité pour nous protéger la démocratie.
Sur le détournement de l'argent, il y a
ça protège la démocratie de ne pas envoyer au pouvoir ou de rendre inéligibles des personnes qui ne sont pas dignes de leur fonction politique.
On n'est pas dans le cadre, pour être très clair vis-à-vis de nos téléspectateurs, vous serez d'accord avec moi, on n'est pas dans le cadre d'un politique qui détourne de l'argent à des fins privées, personnelles, etc. On est dans le cadre d'un politique européen qui détourne de l'argent d'enveloppe européenne vers de la politique nationale, c'est-à-dire toujours vers de la politique. Ah non, c'est pas exactement la même chose.
Si, c'est pas ce que vous défendez. Je vais vous dire pourquoi c'est exactement pareil, Victor Hugo, Victor Hérault. Parce que l'argent, les centaines de milliers d'euros qu'a obtenu.
En tout cas, mais beaucoup de gens doivent se poser des questions. Nous parlons d'un secteur, si on prenait les choses simplement par leur niveau économique, on va dire, il s'agit de 700 000 personnes qui ont un emploi, qui en vivent, qui ont une vie de famille et qui apportent quelque chose à la société dont personne ne conteste l'importance. Et même mieux, on va dire, comme c'est Avignon et que c'est le théâtre, le phénomène depuis deux ans, c'est que les théâtres se re-remplissent beaucoup. Ce qui envoie un signal de la part de la population comme une demande de diversité, d'interpellation, quel rôle de la culture, hein, si on veut faire bref. Et tout ça est en train de mourir, j'allais dire à petit feu, mais c'est plus le cas des petits feux, maintenant on est carrément dans les grands feux. C'est-à-dire c'est des coupes terribles dans le financement public. Et puis entouré d'un discours infâme qui consiste à considérer la culture comme une espèce de supplément d'âme, hein, dont on peut se passer, il y a plus urgent, y compris.
Voilà, bah on a un problème avec Jean-Luc Mélenchon en direct, qui est au Festival d'Avignon, il doit parler culture, et bien évidemment, il y aura une question sur le cas de Marine Le Pen. Donc revenons à cette campagne-là qui vient de se lancer.
Alors attendez, pardonnez-moi, je répondais juste à Victor tout à l'heure, qui disait qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Alors, regardez bien.
C'est pas moi qui le dis.
Le Parlement européen a donné de l'argent à des collaborateurs parlementaires qui en réalité servaient le parti. Ça a fait des économies substantielles pour ce parti, du coup a pu avoir de l'argent pour payer des salaires considérables à Marine Le Pen et à ses proches. On parle de salaire de 10 000 euros par mois, par exemple, pour elle et pour ses proches. Donc ce parti-là, indirectement, bien sûr qu'il a utilisé l'argent du Parlement européen pour aller directement payer les salaires de Marine Le Pen. C'est bien de l'enrichissement personnel, ça.
Et c'est donc la question, là on est en train d'avoir le débat que les magistrats doivent avoir, ont eu et vont avoir encore en cassation, puisque la question, pas sur le fond, mais sur le droit que va poser Marine Le Pen à la Cour de cassation, le litige, il est sur le fait, l'application du code de cet article du code pénal, dont j'ai oublié le numéro, mais qui pose cette question-là, de est-ce que l'interprétation que vous avez faite en première et en deuxième instance de cet article, est-ce qu'il y a réellement un délit dans ce que nous avons fait. Est-ce que tout ça est justifié? La Cour de cassation tranchera sur ce. Ça, c'est pas à nous d'avoir ce débat.
Je propose qu'on ne va pas refaire le procès parce que c'est pas.
Mais nous, les citoyens, on a le droit d'avoir des hommes et des femmes politiques qui ne détournent pas l'argent public. Et on a le droit que ces gens-là n'aient pas le droit de se présenter. Ben voilà.
C'est condamné.
Ben voilà. Donc ça devrait être un vrai
consensuel.
Je trouve qu'il y a quand même un esprit de laxisme dans les élites françaises et que dès lors qu'on touche à la fonction présidentielle et à la
proto-présidentielle.
C'est-à-dire, j'ai entendu ici plus de férocité contre Hamza du canal Saint-Martin que contre les détourneurs de fonds publics.
Raquel Garrido,
quand même, le monde, c'est la tête à l'envers.
Si on peut en placer une, on est dans un pays qui a condamné un ancien président de la République qui s'appelait Jacques Chirac. Il y a actuellement un ancien président de la République qui est en procès, Nicolas Sarkozy, qui attend son jugement.
Qui a fait trois semaines de prison.
On vient de condamner Marine Le Pen. Pour un pays que vous présentez comme laxisme avec le monde politique, les faits vous donnent tort.
Non, parce que Nicolas Sarkozy, peut-être qu'il n'aurait pas dû être candidat et être président. D'accord. Peut-être que lui aussi, il est parti en cavale à l'Élysée. Peut-être que nous, en France, il faut qu'on s'arrête.
Qu'est-ce qui finit condamné?
C'est trop tard. Donc, 15-20 ans plus tard, on va obtenir justice, alors que c'est la démocratie qui est en jeu.
La justice est trop lente, sans doute. Vous avez raison.
Mais surtout, personne ne veut l'appliquer. On a un ministère public qui est dans la carence totale par rapport à sa fonction.
Est-ce que les électeurs qui attendent de voir Marine Le Pen condamnée, ça, j'entends votre argument, prévalent ou valent à égalité avec ceux qui aimeraient pouvoir voter pour
Marine
Le Pen.
Mais c'est pas une opinion.
La question de fond, c'est
les
ça.
Les électeurs vont être protégés des politiciens véreux, protégés,
attendez, c'est à chaque fois l'inéligibilité. Elle est présumée innocente, elle est présumée innocente jusqu'à ce que la Cour de cassation sert à
dans ça, tous les cas, on voit ça. Bien qu'aujourd'hui,
parce
le débat...
Parce toujours portés à abuser de leur pouvoir.
Le débat aujourd'hui, tel qu'il est, tel qu'on regarde aussi les intentions de vote, il est vraiment entre Marine, deux formations qui ont annoncé la couleur, si je puis dire, c'est-à-dire la France Insoumise et le Rassemblement National. Ce matin, il y a une personnalité publique, c'est Elie Semoun, qui s'est prononcée justement, c'était chez nos confrères d'RTL, écoutez-le.
Ça traduit une grande colère dans le pays. En tout cas,
et
oui,
vous êtes toujours un opposant au Rassemblement National, héritier du Front National ?
Écoutez, je vais vous répondre comme un homme politique. Je suis surtout un opposant à LFI. Je ne peux pas supporter cet antisémitisme affiché. Donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec ce parti. J'ai vraiment peur du bordel organisé par LFI. Pour moi, c'est pas une démocratie, quoi. Ça ressemble pas à une démocratie.
Victor,
il y a une inversion depuis ces dernières années. C'est comme si la France Insoumise était devenue un paratonnerre. Jusqu'ici, il y avait eu en bloc une opposition ferme au Front National comme au Rassemblement National par la suite, un barrage. Le barrage est en train de changer de bord. Et désormais, le barrage, ça se voit dans le monde des artistes. Moi, j'accorde pas, pardonnez-moi, et c'est pas contre Elie Semoun, j'accorde pas énormément d'importance à la parole des artistes qui se prononcent sur la politique. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Chacun a le droit de le faire.
Oui, mais enfin, Elie Semoun, c'est un artiste de gauche qui n'a jamais caché son engagement et qui dit aujourd'hui, j'ai plus peur de Mélenchon que de Le Pen.
Je n'accorde pas beaucoup de crédit aux analyses politiques d'Elie Semoun, comme à aucun politique.
C'est pas une analyse.
C'est ce que je dis.
C'est un ressenti.
Ce qui est intéressant, c'est de voir cette bascule d'un homme historiquement de gauche, engagé, qui finit par basculer dans les années 2025-2026 en disant le plus grand danger, finalement, c'est la France insoumise et ce n'est plus le Rassemblement national. Ça, c'est un bouleversement dans le champ politique français.
Écoutez, moi, je n'ai pas écouté toute l'intervention d'Elie Semoun et je ne sais pas s'il... Il déduit que le RN n'est plus dangereux.
Il ne dit pas qu'il votera Marine Le Pen, mais il dit qu'il a plus peur de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui.
Je pense que, en revanche, effectivement, sa réprobation de... ce qu'on va appeler les fautes, les erreurs, les provocations, les errements de Jean-Luc Mélenchon, elle surprend qui ? Je veux dire, moi, ça ne me surprend pas. C'est précisément...
Il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui vous disent ça ?
Évidemment. Et puis pas seulement les juifs, parce que quand on fait des blagues sur les patronymes, on a panthéonisé Manoukian. Les poèmes de la gauche, c'est précisément sur ces noms imprononçables. On fait pas de blagues sur les patronymes étrangers. C'est dans l'ADN de la gauche. C'est dans l'ADN. Mmh. Bon, donc Jean-Luc Mélenchon, il a fait des fautes, des erreurs plus graves que lui, qui, du coup, par capillarité, entache toute la gauche et même toute la France insoumise. Donc voilà, c'est un débat, on va dire, qui ne va pas s'arrêter. Puisqu'il ne va pas se réformer, il ne va pas s'améliorer. Il est peut-être bon en com.
C'est le chemin, parce que Jean-Luc Mélenchon, jusqu'ici, n'a jamais dit je m'excuse, je me suis trompé, c'est une faute, c'est une erreur, c'est un moment d'égarement.
C'est
la stratégie politique.
C'est pas le rôle de ses camarades à le défendre, à descendre dans le nenni, non, mais pas du tout, etc. Bon, moi, évidemment, la France Insoumise n'est pas un parti antisémite, et les militants de la France Insoumise et les électeurs de la France Insoumise ne sont pas antisémites, et même la stratégie qui consiste à penser qu'il va y avoir un électorat antisémite suivi mon regard vers l'électorat musulman, c'est faux, c'est pas vrai. L'électorat musulman n'est pas antisémite, ne vote pas pour des partis antisémites. Cependant, Jean-Luc Mélenchon a fait des erreurs qui payent cash et on le voit avec l'opinion effectivement d'un humoriste qui n'est pas non plus un grand intellectuel, un grand sachant de la politique, mais qui est un citoyen finalement comme les autres et qui dit je ne fais pas confiance à la sincérité politique de Jean-Luc Mélenchon pour porter mes idées de gauche. Bon, c'est la raison pour laquelle moi je me bats depuis le début pour une primaire de la gauche et des écologistes. Et les socialistes votent ce soir, ils sont en train de voter au moment où nous parlons. J'espère qu'ils voteront pour cette primaire de la gauche et des écologistes telle que le promeut et le défend Olivier Faure depuis des mois.
Il y a un paradoxe intéressant, Raquel Garrido, et là je parle à la femme de gauche.
Ce sera le dernier mot.
C'est que la personnalité qui a aujourd'hui le plus de chances d'arriver au second tour, en tous les cas, le grand clash qu'on attend face au Rassemblement National, le plus grand moteur à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et c'est paradoxalement, on le voit dans les sondages, mais on le voit même d'un point de vue de stratégie électorale, celui qui aura le moins de chances de l'emporter face à ce qu'il appelle l'extrême droite. Donc là, la gauche est prise dans un paradoxe lunaire qui est celui qui nous lie.
Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer ce soir dans les sections socialistes.
Tout se joue ce soir dans les sections socialistes.
J'espère qu'ils iront tous voter pour la question 1 portée par Olivier Faure.
Mais rappelons qu'on en est qu'au début, aux prémices de la campagne électorale.
Absolument, absolument.
Merci Raquel Garrido, merci Victor Hérault.